Voici une question dont la réponse nous fera voir à quel point Dieu nous aime. Pourquoi est-ce que le roi des rois s'est abaissé dans un corps comme le nôtre? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse remplie d'espoir, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on va voir la royauté de Jésus ainsi que l'humiliation qu'il a subie à cause de nous. Je crois qu'on va réellement voir à quel point Dieu nous aime à travers le bon enseignement qu'on va recevoir en réponse aux questions que voici. Est-ce que Dieu veut que tout le monde chante sa gloire? Est-ce qu'il nous appelle tous à le louer? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui agissent comme si le Seigneur Jésus n'était pas Dieu? Comment est-ce qu'on devient une brebis du Seigneur? Est-ce qu'on apporte quelque chose au temps de louange et d'adoration à l'Église, le dimanche matin, quand on n'a pas un cœur reconnaissant? Pourquoi est-ce que Jésus, qui est le roi des rois, s'est abaissé dans un corps comme le nôtre? De quelle façon est-ce que le Seigneur Jésus régnera sur la terre un jour? Quand quelqu'un fait du mal à un croyant, est-ce que c'est vrai qu'il fait du mal à Dieu? Comment se fait-il que Jésus peut sympathiser avec nous? Demeurez avec nous. Le grand livre de Dieu a une réponse remplie de sagesse pour chacune de nos questions. Il va nous donner cet enseignement par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Quelle joie, mon Dieu, d'entrer dans ta présence, sachant que tu veux nous instruire par ta parole qui est vivante. Oh, touche nos cœurs aujourd'hui, fais-nous du bien par tes Écritures et aide-nous à retenir ce que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Le psaume 100 est la grande finale de la petite série qui a débuté avec le psaume 94. Cette série de psaumes nous présente le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Oui, Dieu règne. Au psaume 93, nous avons vu que l'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Verset 1er du psaume 93. Cela sera évident au deuxième retour du Seigneur Jésus. La première fois qu'il est venu, il n'était pas revêtu de majesté. Il s'est présenté sous la forme d'un nourrisson, d'un serviteur. Lors de sa prochaine venue, le Seigneur Jésus sera vêtu de majesté. Dieu des vengeances éternelles, le psaume 94, verset 1er. Lorsque le Seigneur Jésus reviendra, il remettra de l'ordre. Nous ne pourrions le faire car ce serait pour nous de la vengeance, mais ce n'est pas ainsi que le Seigneur règnera. La vengeance du Seigneur est juste, il rendra justice à tous. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Le psaume 95, verset 1er. Que dire des premiers versets des prochains psaumes? Le psaume 96, chante à l'Éternel un cantique nouveau, chante à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Premier verset du psaume 97, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse. Verset 1er du psaume 98, chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Et le psaume 1er du verset 99, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Maintenant, nous arrivons au grand psaume de louange, la grande finale de cette série de psaumes du règne des rois des rois. Chers amis, débutons notre lecture, le psaume 100, versets 1 et 2. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oui, chers amis, nous sommes invités à adorer Dieu dans la joie. Je vous rappelle une nouvelle fois que Dieu ne veut pas que vous veniez l'adorer avec un visage triste. Il y a des temps pour venir à Dieu avec un visage triste. Lors d'une défaite, devant une tentation forte. Conviction de péché et repentance. Confession et demande de pardon. Vous adorez Dieu lorsque vous venez le louer. Il veut que vous soyez heureux. accordons nos instruments et préparons-nous à louer le Seigneur. Chante pour le Seigneur, terre entière. Nous sommes tous invités à louer le Seigneur. L'univers doit chanter la gloire de Dieu. Quel orchestre, quelle symphonie! Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. C'est un merveilleux psaume de louange. Louez-le, adorez-le, glorifiez-le. Dans nos églises, nous devrions adorer et louer Dieu davantage, et nous devrions le faire dans la joie. Puisez dans les bénédictions que le Seigneur Jésus vous a acquises. Ce psaume est semblable à une grande doxologie. Nous en trouvons plusieurs dans la parole de Dieu. Nous en avons une dans Éphésiens chapitre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Dieu a été bon envers nous. Il nous a donné toute bénédiction spirituelle, mais certains d'entre nous n'allons pas puiser dans le dépôt que le Seigneur Jésus a mis dans notre compte. Nous avons déposé nos bénédictions dans un entrepôt et nous les conservons pour les temps difficiles. Mes amis, nous sommes dans des temps difficiles, même si c'est un jour ensoleillé. Puisez dans les bénédictions que le Seigneur Jésus vous a acquises. Voici une autre doxologie très belle. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Mes pieds ne touchent plus à terre lorsque j'entends une telle doxologie. Le monde a été créé afin de louer Dieu et il nous appelle à le faire. Profitons-en. Le prochain verset nous présente Dieu, le Créateur et le Rédempteur. Verset 3 du psaume 100. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Agissez-vous comme si le Seigneur Jésus n'était pas Dieu? De nombreuses personnes ne savent pas que le Seigneur est Dieu, dont des personnes qui se disent chrétiennes. Lorsque le Seigneur Jésus apparut à Thomas après sa résurrection, Thomas s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean chapitre 20, verset 28. Vous aujourd'hui, mes amis, croyez-vous vraiment que le Seigneur Jésus est Dieu? De nombreux chrétiens agissent comme si le Seigneur Jésus n'était pas Dieu. Dieu est le Créateur et c'est lui qui nous a fait. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes et nous ne sommes pas le fruit du hasard d'un processus évolutionnaire. Nous devrions adorer Dieu parce qu'il est le Créateur de l'univers. Il est celui qui m'a formé. Comment devient-on une brebis du Seigneur? Voilà une autre bonne question. Non seulement adorons-nous Dieu parce qu'il est le Créateur, mais aussi parce que nous sommes son peuple, nous sommes les brebis de son troupeau. Mais comment devient-on une brebis du Seigneur? Vous devez être racheté par le sang précieux du Seigneur Jésus. Le bon berger doit avoir donné sa vie pour vous. Les brebis ne sont pas mortes pour le berger. Les brebis sont les croyants d'Israël ainsi que ceux qui composent l'Église aujourd'hui. Le Seigneur Jésus a affirmé qu'il avait d'autres brebis qui n'étaient pas de cette bergerie. Écoutez son appel. « Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Jean chapitre 10, versets 14 à 16. Le Seigneur est le berger d'Israël ainsi que le nôtre, si nous lui appartenons, si nous lui avons fait confiance et si nous entendons sa voix et marchons auprès de lui. Verset 4 du psaume 100. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est ainsi que Dieu veut que vous veniez en sa présence. J'ai déjà visité des églises où le service était terne. Les membres n'avaient pas un cœur reconnaissant envers Dieu. Ils ne louaient pas Dieu d'un cœur sincère. Lorsque vous allez à l'église le dimanche matin ou à une autre réunion d'église, assurez-vous que vos cœurs débordent de joie et de reconnaissance envers Dieu. Sinon, vous ne contribuerez pas grand-chose au service. Nous y allons pour y apporter notre louange, notre adoration envers ce grand Dieu. Le verset 5. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Quelle belle vérité! Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je sais que Dieu est bon envers vous et moi. Il est vraiment très bon. Sa bonté dure toujours. Les bontés de Dieu ne sont jamais épuisées. Elles sont comme la farine dans le pot de la veuve secourue par le prophète Élie. La farine ne s'épuisait plus puisque la veuve avait servi un repas au prophète. La bonté de Dieu et sa fidélité de génération en génération. Nous venons de voir un merveilleux psaume de louange. Soyons reconnaissants envers ce Dieu qui est bon envers nous. Maintenant, le psaume 101 débute une série de 6 psaumes qui louent le roi, le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi de justice et de paix, et il régnera sur la terre. Le psaume 101 est prophétique, et il traite du Messie qui sera un descendant de David. Ce psaume ne traite pas d'un roi qui succéda à David sur son trône, mais bel et bien du Seigneur Jésus, de celui qui est à venir. Débutons la lecture, verset 1er. De David. Psaume, je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Il est le roi de la justice et le roi de la paix. Nous avons un roi merveilleux. Ça nous donne le goût de chanter. Poursuivons notre lecture. Je vais m'en tenir à cela pour aujourd'hui. Verset 2. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Le Seigneur Jésus s'est abaissé afin de nous élever. Le roi parle en tant que fils de l'homme. Lorsqu'il était sur terre, il était le fils de l'homme. Le Fils unique du Père était là pour accomplir son œuvre rédemptrice qu'il a accomplie en se soumettant au Père. Il a volontairement quitté sa gloire céleste temporairement pour prendre un corps humain et une forme de serviteur. Le Seigneur Jésus s'est abaissé afin de nous élever. Avant son incarnation, le Seigneur Jésus a dit, « Alors j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Hébreux chapitre 10, verset 7. Lorsque le Seigneur Jésus était sur terre, il a affirmé que sa nourriture était de faire la volonté de son Père qui l'avait envoyé. Il a accompli la volonté de son Père parfaitement. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu et il attend que le Père l'envoie une deuxième fois, car le Père a dit, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Le psaume 110, verset 1er. La Bible nous dit, « Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Voici à quoi le Seigneur Jésus se tient occupé sur terre. J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Hébreux chapitre 2, verset 12. Voilà comment le Seigneur Jésus règne. Versets 4 à 8 du psaume 101. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Celui qui a des regards hautains est un cœur enflé, et je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. » Oui, chers amis, justice, droiture, voilà ce qui caractérise le règne du Seigneur Jésus. Nous avons ici un aperçu de la façon dont le Seigneur Jésus règnera sur cette terre. Aujourd'hui, des gens qui s'opposent à Dieu et à sa parole réclament des droits à la Cour suprême. Ils réclament le droit de vivre en ne se conformant pas à la loi de Dieu. Mais dans le royaume de Dieu, ces personnes ne pourront s'adresser à une cour supérieure ni se justifier en citant les causes types des tribunaux humains. Le Seigneur Jésus sera l'unique juge et ses verdicts justes seront sans appel. Le peuple se réjouira dans son roi qui règnera avec droiture et justice. Nous réclamons ce royaume, nous réclamons ce règne, n'est-ce pas le Notre Père? Le Seigneur Jésus lui-même a dit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Nous désirons ardemment ce règne. Le psaume 102 est un psaume messianique qui nous présente le Seigneur Jésus dans le jardin de Gethsémané. L'auteur de ce psaume n'est pas identifié. Il est fort possible que ce soit David. Voici le titre du psaume. « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. » Ceci est une description de Jésus-Christ au jardin de Gethsémané. Le Saint-Esprit a cité ce psaume dans le Nouveau Testament. Débutons sa lecture. Le psaume 102, versets 1 et 2. « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. » Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ici, nous avons Dieu qui prie Dieu. Le Fils, dans son état d'humiliation, est tout de même Dieu fait chair. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Genèse, chapitre 19, verset 24. Autrement dit, la personne de la Trinité sur terre demande à l'autre personne de la Trinité au ciel d'envoyer le feu et le soufre. Dans son humiliation, faisant face à la crucifixion pour nos péchés, l'homme qui est le compagnon de l'Éternel, nous dit le prophète Zacharie, chapitre 13, verset 7, « Crie à celui qui peut le délivrer de la mort. » Nous avons ici une prophétie des pleurs et des cris de Jésus-Christ à Gethsémané. Hébreux chapitre 5, verset 7. Il fut entendu, mais la colère du Dieu saint et juste le frappa parce qu'il portait nos péchés. Nous sommes encore devant un psaume merveilleux. Maintenant, nous voyons à quel point Jésus fut dans l'agonie. Verset 9. Chaque jour, mes ennemis m'outragent, et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Ceci démontre la profondeur de son désespoir. Ce que vous faites à un frère dans la foi, vous le faites au Seigneur Jésus. Les outrages et les paroles blessantes font plus de mal que quoi que ce soit d'autre. Le mépris est une arme efficace trop souvent utilisée, même dans nos milieux chrétiens. Les souffrances physiques peuvent nous attirer une certaine compassion, donc elles sont moins douloureuses que les paroles blessantes. Dans l'épître de Jacques, nous lisons « De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. » et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Jacques, chapitre 3, versets 5 à 9. « Votre langue sert-elle à louer Dieu ou à blesser son Église? N'oubliez jamais que ce que vous faites à un frère ou à une sœur dans la foi, vous le faites envers le Seigneur Jésus. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Citation de l'Évangile selon Matthieu chapitre 25, versets 41 à 45. Les attaques de l'ennemi furent incessantes. Chaque jour, il y avait quelqu'un pour outrager le Seigneur Jésus. Cependant, il a enduré tout cela par amour pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Verset 11 du psaume 102. À cause de ta colère et de ta fureur, car tu m'as soulevé et jeté au loin. Les mots colère et indignation sont les termes les plus forts que l'on peut employer en hébreu. Le Seigneur a enduré tout cela. Dans quel but? En échange de la joie qui lui était réservée, nous dit l'auteur aux Hébreux, chapitre 12, verset 2. Revenons au psaume 102 et cette fois lisons les versets 13 et 14. « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité, et ta mémoire dure de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé, est à son terme. » Dieu aura pitié de Sion. Donc, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Hébreux chapitre 12, verset 2. « Le Seigneur Jésus est mort pour la nation d'Israël. » Jean 11, versets 50 et 51, souligne qu'il était nécessaire qu'une personne périsse afin que toute la nation ne périsse pas. Le Seigneur Jésus est mort pour cette nation. Il reconstruira Sion lorsqu'il reviendra dans sa gloire, c'est-à-dire à sa deuxième venue. Il restaurera les Juifs, les Israélites, son peuple. Verset 17 du psaume 102. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Le Seigneur savait que Sion serait reconstruit grâce à sa mort expiatoire. Les versets 26 à 28. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront, tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Parce que Jésus a souffert pour nous, il peut sympathiser avec nous. Le Saint-Esprit cite ce verset dans l'Épître aux Hébreux, versets 10 et 12 du chapitre 1er. Nous n'aurions pas su que le psaume 102 était un psaume messianique si l'auteur de la Bible, le Saint-Esprit, ne l'avait révélé au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux. Le psaume 102 s'applique au Seigneur Jésus-Christ. C'est un cri de douleur et nous reconnaissons le roi à Gethsémané. Il est dans un état d'humiliation avant son exaltation, comme l'explique Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Oui, parce qu'il a souffert pour nous, il peut sympathiser avec nous. Le psaume 102 est le psaume de Gethsémané, des souffrances de Jésus avant la croix pour chacun d'entre nous. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant les psaumes 103 à 106.
Merci beaucoup, Régent. Dans une même leçon, tu nous as enseigné que Jésus est roi, qu'il règne, qu'il est revêtu de majesté, et que pourtant, il s'est abaissé afin de nous élever. Il a fait la volonté de son Père. Il est venu sur cette terre dans un corps comme le nôtre. Il s'est fait chair. Il a enduré des outrages de la part des êtres humains, ses créatures. Et il a enduré tout ça par amour pour nous, pour qu'on puisse être sauvés. Quel amour! Mes amis, connaissez-vous le Seigneur Jésus? Le connaissez-vous réellement? Le connaissez-vous intimement? Est-il votre sauveur? Est-il devenu votre sauveur à un moment de votre vie? J'ai remarqué que beaucoup de gens disent que Jésus est le sauveur du monde, et c'est vrai. Mais je vous demande à vous, mes amis, est-ce que Jésus est votre sauveur personnel? L'avez-vous reçu dans votre cœur? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez constaté que vous étiez un pécheur, une pécheresse perdue, incapable de vous sauver vous-même? Oh, mes amis, Jésus est le seul espoir. Un jour, l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, s'est adressé aux chefs du peuple et aux anciens d'Israël. On peut voir ça dans le livre des Actes, au 4e chapitre, au verset 11 et 12. Il leur a dit ceci: « Jésus est la pierre angulaire rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mon ami, qui que tu sois, il n'y a personne, ni quoi que ce soit qui puisse te sauver, qui puisse te donner la vie éternelle. Tout le bien que tu fais ne sera jamais assez pesant dans la balance pour compenser pour le péché dans ta vie. Et je ne te juge pas, c'est la parole de Dieu qui a dit qu'on a tous péché, qu'on est tous privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus, en venant sur cette terre, a payé ta rançon. Il a reçu le châtiment qu'on méritait tous pour nos péchés. Il l'a fait en se laissant crucifier sur une croix, où il est mort, ayant tout accompli pour nous offrir une place au ciel pour l'éternité. Mon ami, veux-tu cette place au ciel que Jésus t'offre en ce moment? J'aimerais t'inviter à te repentir, à changer de direction en ce qui concerne le péché. Demande pardon à Dieu et invite Jésus à entrer dans ton cœur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Il va le faire. Il est à la porte de ton cœur en ce moment et il frappe. Laisse-le entrer. Demande-lui de devenir ton sauveur. Demande-lui aussi de devenir ton Seigneur, c'est-à-dire le maître de ta vie. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Laisse-le devenir ton roi, celui qui règne sur toi. Laisse-le devenir ton Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître, et il est un maître merveilleux. Il est un maître qui est doux et humble de cœur, et il veut te sauver en ce moment. Ouvre la porte de ton cœur. Je t'en supplie, mon ami, laisse entrer Jésus dans ton cœur.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité.
Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.